RCF.
Il est 18h10, c'est l'heure du 18-19 en région avec Jean-Pierre Benoît et Alexis Claudretz.
Bonjour, 18h10, 19h en direct avec vous Alexis, RCF Cœur de Champagne, RCF Reims-Ardennes.
Bonsoir Jean-Pierre, bonsoir à toutes et à tous.
Alors il est vrai qu'on va retrouver nos chroniqueurs habituels dans quelques minutes. Il est déjà installé depuis déjà un moment, il attend avec beaucoup de patience Gérard-Marie Henry. Et puis ensuite on retrouvera bien sûr nos chroniques habituelles.
Effectivement, alors parmi les chroniques habituelles, vous venez d'évoquer la question d'économie que l'on va poser à Gérard-Marie Henry. On parlera de l'expérience Zwickau en Allemagne, mais on a également un maire qui nous parle. C'est le rendez-vous tous les soirs. On va être en ligne avec Dominique Potard qui est l'édile de Besançon, Jean-Pierre.
Absolument. Alors il faut savoir, mais tout le monde le sait, en particulier dans la Marne et à Reims, moins peut-être dans les Ardennes, tout le monde entend parler de la clinique de Besançon, et Besançon s'est transformée en une dizaine d'années de façon extraordinaire. Sa population a été considérablement augmentée et ça sera l'occasion de faire le point avec le maire Dominique Potard.
Et puis, on va continuer de poursuivre un itinéraire, Jean-Pierre, également, celui de la maîtrise de la cathédrale de Reims. Hier, Sandrine Lebec était avec nous, Laetitia Stens également, pour nous faire part de leur voyage du côté de Lourdes.
Alors là, ce qui est assez extraordinaire, c'est que on était au moment du départ avec eux. Et puis, évidemment, on avait émis l'idée de les avoir ce soir. Alors, normalement, si tout va bien, si ça marche bien, on les aura ce soir en direct tout à l'heure.
En tout cas, c'est ce qui est prévu de les avoir. Et
il
puis on
faut
va
dire qu'ils
de
font
accompagner
des concerts, pas seulement à Lourdes, mais aussi à Tarbes, à Pau, dans toutes les environs, à quelques kilomètres. Lourdes, Tarbes, c'est tout près. Mais bien sûr, ça sera l'occasion de parler de la fameuse maîtrise de la cathédrale qui est de renommée nationale, voire maintenant internationale.
Et puis on aura l'occasion de les accompagner tout au long de la semaine, puisqu'on retrouvera normalement Sandrine Lebec également avec nous demain, vendredi soir, dans le magazine régional dans lequel on retrouvera Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort d'ailleurs, Jean-Pierre, demain.
Absolument, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort sera demain à 7h notre invité en direct, il sera présent dans notre studio, on le retrouvera d'ailleurs le mercredi. Et puis, puisque nous sommes là tous ensemble et que RCF Cœur de Champagne est concerné, il faut savoir que mercredi prochain, nous aurons avec Monseigneur de Moulin-Beaufort une émission spéciale sur la fin de vie. Le mercredi, ça durera de 18h10 à 19h, c'est en direct, avec aussi un médecin, le docteur Jérôme Sainton, qui suit bien sûr la question des soins palliatifs. Et puis il y aura aussi, je crois, peut-être une psychologue ou en tout cas une personne qui connaît tous ces sujets.
On continue de regarder le programme de ce soir, de ce jeudi, si vous le voulez bien, parce qu'on n'a pas encore tout dit. On aura la directrice adjointe du lycée Saint-Jean 23 de Reims qui sera avec nous pour nous présenter la journée bien avec soi, bien avec les autres.
Absolument. Adriana Chobria est d'origine roumaine. Elle est présente comme directrice adjointe du lycée Saint-Jean 23 depuis déjà quelques années. Auparavant, elle avait été enseignante au lycée Saint-Joseph de Reims. On aura l'occasion d'en reparler. Et puis, il faut rappeler dans la vie diocésaine à Reims qu'en ce moment, il y a une mission qui est organisée dans la région de Montagne-Val d'Or et que la semaine prochaine, à partir de dans 15 jours, plutôt de lundi 29, il y aura une marche des vocations un peu partout dans tous les diocèses.
Jean-Pierre, Gérard-Marie Henry est en train de terminer de s'installer. Ce que je vous propose exceptionnellement, c'est qu'on a pris la ligne avec un maire qui vous parle ce soir. On a parlé de Dominique Potard, qui devrait être avec vous au téléphone. Si la ligne fonctionne bien, on va donc prendre la direction de Besançon dans un premier temps.
Dominique Potard, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre Benoît.
Merci d'être avec nous. Alors c'est vrai que vous êtes maire de Besançon. Alors quand on parle Besançon, on va en parler, on pense bien sûr à la clinique aujourd'hui. Mais Besançon, c'est combien d'habitants en fait, Dominique Potard?
Alors officiellement c'est 3500 habitants, mais c'est bien loin de la réalité puisqu'on est environ 5000 et que d'ici 2027, compte tenu des logements à livrer, on devrait être plus de 6000 habitants.
En ce moment, Besançon est en train de se transformer, c'est incroyable, on a connu des champs il y a quelques années, mais là, bon d'abord la clinique de Besançon, c'est la première de France.
Ouais, la clinique de Besançon, la première de France, elle continue encore à se développer. puisque bah, elle attire, on va dire, les passions de toute la région élargie, hein, de la Meuse, des Ardennes, de l'Aisne, et voire de région parisienne, et de la Marne, bien sûr. Donc c'est quelque chose qui est une attractivité très très intéressante pour la commune, en plus de la gare TGV.
La gare TGV, la clinique, et puis aussi les sièges de très nombreuses entreprises qui ont pignon sur rue, à la fois régionalement, mais aussi nationalement, hein, faut le dire.
Oui, oui, puisqu'on a des grosses, grosses entreprises. On a Cristal Union, on a Mazars, on a Frey, qui est quand même dans l'immobilier international. Ouais, on a des grosses, grosses entreprises qui ont choisi Besançon pour justement son positionnement au niveau des nœuds interroutiers et ferroviaires, et puis bah, pour une lisibilité par rapport au Grand Reims et à la région Grand Est.
Et à côté de tout cela, les entreprises, les cliniques, il y a aussi des habitations. Il y a beaucoup actuellement de création de logements, hein, à Besançon, de logements neufs, enfin... C'est assez exceptionnel aussi.
Oui, alors on est vraiment dans une expansion démographique exceptionnelle. On peut dire, voilà, je vais reprendre votre mot, exceptionnel. Bon, alors ça va quand même se calmer un petit peu, hein, puisqu'il faut qu'on arrive à absorber au niveau des services toute cette nouvelle population. Mais il est encore prévu une livraison de 700 logements dans les 3 ans à venir. Quoi.
Mais alors comment on reçoit des maires tous les jours qui sont d'ailleurs très, très, très gentils, très sympathiques, qui nous expliquent leur commune, parfois de 150, 160 habitants, 200 habitants. La population n'évolue pas beaucoup. Mais vous, à Besançon, en tant que maire, vous vous trouvez dans une situation d'une commune en pleine expansion. Alors, comment faites-vous, monsieur le maire? Parce que vous devez être un peu partout en même temps.
Alors, un peu partout en même temps, voilà, il faut penser à combler les retards qui ont été pris, hein, voilà, faut appeler un chat un chat, et puis ben, anticiper sur les nouveaux besoins qu'il va falloir satisfaire, parce que avoir de la population, c'est bien, mais on doit mettre en face les services en adéquation. C'est notamment pour ça qu'on est en train de construire une seconde école pour pouvoir répartir correctement les élèves sur l'ensemble du territoire.
Et vous, Dominique Potard, vous êtes maire depuis combien de temps de Besançon?
Depuis les dernières élections, depuis 2020, en plein Covid, je suis arrivé aux commandes de cette commune magnifique.
Alors c'est tout de même pas facile, on peut vous saluer une deuxième fois, d'arriver à la tête d'une commune comme Besançon en pleine expansion, en pleine épidémie. Ça n'a pas dû être facile non plus à gérer.
Non, ça n'a pas été facile. C'est pas le meilleur moyen de commencer à appréhender les difficultés d'une commune et de sa population. Non, ça n'a pas été simple. Mais quand on décide de prendre la charge d'une commune, forcément, on s'attend bien à ce que ça soit pas tous les jours tout à fait rose, quoi.
On se rend compte quand on arrive dans Besançon, quand on vient de, qu'on appelle la voie du Rouillard, puis qu'on arrive vers la gare TGV, on s'aperçoit aussi que il y a eu de la restauration des commerces, parce que toute cette population qui travaille, il faut bien qu'elle déjeune. Est-ce qu'on arrive quand même dans des communes nouvelles comme ça à créer un centre de vie quand même un peu différent?
Alors, c'est une de nos préoccupations, hein, au quotidien. On a la chance d'avoir le Courlanges, qui est une zone tout à fait piétonne, où il y a un certain nombre de commerces qui s'y sont installés. Et c'est aussi un de nos défis à nous, c'est d'essayer de le faire vivre au maximum pour que ce soit un peu un centre de vie de tous les habitants et de rassemblement. C'est notamment sur cette place qu'on a un marché hebdomadaire tous les jeudis soirs.
Alors quels sont, Dominique Potard, alors des projets, vous devez en avoir plein dans les tiroirs et dans les cartons, mais quels sont ceux qui vous tiennent particulièrement à cœur en ce moment, qui sont en cours ou qui vont démarrer dans quelques jours ou dans quelques semaines?
Alors, celui qui nous tient particulièrement à cœur, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est cette seconde école pour laquelle on espère une ouverture pour la rentrée 2024, hein, puisque il faut savoir que depuis quelques années, on a entre une et deux classes supplémentaires chaque année, donc il faut y faire face. Après, on a bien estimé les besoins pour la commune, donc on sait qu'on a besoin d'un gymnase, on sait qu'on aurait besoin d'un terrain en synthétique pour le stade de foot, on sait qu'on a besoin d'un troisième cours de tennis, on a besoin d'agrandir les espaces associatifs. Donc tout ça, c'est un peu dans les cartons. On essaye d'avancer sur ces projets tranquillement et sereinement parce que, évidemment, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Par contre, dans les projets concrets qui vont arriver, on va mettre des panneaux solaires, des panneaux photovoltaïques sur les toits de nos services techniques. Et avec ça, l'électricité produite pourra nous permettre d'alimenter dans la journée tous nos bâtiments communaux.
Alors ça, c'est une belle innovation, Dominique Potard. Et puis aussi, on a l'impression dans ces villes nouvelles que on a quand même une autre manière de voir l'habitat, quoi. On voit bien qu'on est dans un monde un peu nouveau, quoi. C'est vrai, par rapport aux communes traditionnelles où on se retrouve avec des maisons classiques, etc. Là, c'est autre chose.
Alors, il faut savoir que nous, on a quand même des lotissements qui sont, on va dire, classiques, hein, voilà. Mais par contre, on a des immeubles collectifs qui, notamment, que ce soit de l'accession à la propriété ou que ce soit du locatif, hein, qui sont tous avec des balcons, avec un petit endroit où les gens puissent un peu s'aérer et profiter de l'air ambiant. Donc, parce que ça, c'est une demande forte, notamment après le Covid, hein, faut l'avouer. Et puis, puisqu'on parle d'habitation, on va avoir sur besoin d'une première française, sinon européenne. On va avoir un immeuble de plusieurs étages qui va être construit avec une imprimante 3D. C'est-à-dire que le béton va être coulé par une imprimante.
Mais ça, c'est une innovation exceptionnelle, ça, Dominique Potard. J'en ai jamais entendu parler pour ma part.
Ah ben non, c'est tout à fait, je vous dis, c'est une grande première. C'est pour ça qu'il y a des tests qui sont faits, il y a des validations.
En tout cas, dans le département de la Marne, hein, je parle à notre niveau.
Non, c'est au niveau français, voire européen, c'est une première. C'est pour ça qu'on a fait une conférence internationale à ce sujet, parce que forcément, en France et à l'étranger, les gens sont très intéressés de voir concrétiser cette grande première.
Oui, parce que quand vous dites en béton, ça veut dire que l'immeuble lui-même, on n'imagine pas trop, hein, il est construit comme cela.
Ouais, c'est comme une imprimante. L'imprimante, au lieu de couler de l'encre, pour ceux qui connaissent un petit peu les imprimantes 3D où on coule du plastique, là, au lieu de couler du plastique, on va couler du béton.
Oui, mais enfin, quand on est, Dominique Potard, quand on voit les petites imprimantes qui font du 3D, c'est parfois des choses de 20, 30, 40, 50 centimètres. Mais là, vous êtes en train de nous parler d'une tour. Combien d'étages?
Alors, c'est prévu de mémoire deux étages, enfin trois étages avec le rez-de-chaussée.
Donc, c'est quand même autre chose, c'est une autre dimension.
Tout à fait. C'est pour ça que c'est une première en France, et voire en Europe.
Dominique Potard, on a tellement de choses à nous dire que je vous proposerai prochainement, alors que normalement on va faire bien sûr circuler, comme on dit entre guillemets, plusieurs maires. Là, on a tellement de choses à dire à propos de Bézanne que je vous proposerai dans quelques semaines, dans trois semaines peut-être, de revenir. Parce qu'on n'est pas arrivé au bout, et nous on est au bout de notre émission. Simplement, je vous pose la question, comme je le fais avec tous les maires, êtes-vous un maire heureux, Dominique Potard? Oui, quand même.
Oui. De toute façon, quand on choisit d'assumer ses fonctions, il faut regarder le bon côté des choses et voilà, essayer de faire du bien aux gens, essayer d'offrir des services. Et enfin, construire une école, c'est quand même des projets valorisants. C'est quand même, voilà, ça nous donne de la satisfaction. Et voilà, si on n'est pas heureux, se lever le matin pour venir au bureau, ça serait compliqué.
Merci Dominique Potard d'avoir été avec nous et à bientôt sur RCF.
Vous l'avez compris, il est 18h23 dans quelques instants. On parle économie avec Gérard-Marie Henry.
Le 18-19 sur RCF.
Voilà, on fait des petites feintes, on change le programme, on change l'horizontalité entre le maire qui nous parle tous les soirs à 18h20 et nos chroniqueurs que l'on retrouve en début d'émission habituellement. Gérard-Marie Henry est avec nous, il est bel et bien installé en studio. Gérard-Marie, bonjour.
Bonjour Alexis, bonjour à tous.
Et vous voulez nous parler d'une ville, Zwickau, j'imagine que ça se dit comme
ouais,
ça.
Oui, je pense, oui.
Qui est passée au tout électrique.
Oui, alors donc c'est une histoire assez complexe, on va synthétiser. Donc Zwickau, c'est une ville qui est en partie de l'Allemagne, à l'est de l'Allemagne, dans l'ancienne RDA, qui appartient au groupe Volkswagen et qui a décidé, il y a maintenant 2 ans et demi, 3 ans, de ne plus construire que des voitures électriques.
Est-ce que c'est un pari gagnant, Gérard-Marie Henry? On ne va pas traîner, on pose la question essentielle.
Non. Donc l'usine pourrait produire à peu près 350 000 voitures par an, et là, il tourne à 200 000. Et donc, il y a un petit souci. Ils ont viré les gens qui étaient sur des contrats à durée limitée, alors qu'ils leur avaient promis de les garder. Mais Volkswagen, enfin Audi surtout, considère que c'est un investissement d'avenir.
Alors pourquoi Audi considère que c'est un investissement d'avenir et finalement qu'on se rend compte qu'au moment de la production sur la chaîne, les commandes pour l'instant n'augmentent pas plus que ça. Donc c'est un investissement d'avenir, mais pour quand?
Bon, alors là c'est le problème qu'ont tous les constructeurs. Hein. Vous avez peut-être entendu que dans la semaine dernière, le groupe Tesla a décidé de réduire ses effectifs. Donc les Tesla elles-mêmes ne se vendent plus aussi bien. Et puis les autres constructeurs qui essayent de grignoter des parts à ce constructeur américain qui est installé en Chine, en Allemagne et aux États-Unis, bah les autres constructeurs ont beaucoup de mal parce que les automobilistes préfèrent, on l'avait fait une émission là-dessus, des véhicules hybrides rechargeables, c'est-à-dire pas tout électrique, où vous avez un moteur thermique, vous n'avez donc pas la crainte de la borne électrique qu'il faut trouver, etc. Et donc là, il y a un pari que font certains constructeurs, mais en général, ils gardent dans la même usine la construction de modèles qui sont purement électriques et de modèles qui sont hybrides rechargeables. Tandis que là, le groupe Volkswagen a choisi de passer à uniquement l'électrique.
Mais si on fait un petit focus sur ce qu'il se passe pardon, à Zwickau, comment est l'atmosphère là-bas ? Parce que les gens, j'ai envie de dire, c'est une économie très locale où on vivait vraiment de la construction des voitures. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne se sent pas un petit peu fébrile face à cette situation justement d'être passé au tout électrique ?
Oui, alors les gens ont peur. Mais alors, Volkswagen essaye de les calmer en disant, vous voyez, il y a des sous-traitants qui viennent, qui continuent à produire les trucs qu'on a dans des voitures électriques. Il faut aussi des sièges, il faut aussi des volants, etc. Donc tout ce tissu industriel local ne va pas disparaître. Et pour l'instant, donc, Volkswagen arrose l'usine, enfin, fait des efforts pour que malgré sa faible compétitivité, elle garde son personnel, sauf les gens qui ne sont pas permanents. Mais les gens se demandent ce qui va se passer dans quelques années. Est-ce que le pari va réussir ou est-ce qu'à un moment donné, Volkswagen va dire on ferme parce qu'il a un nombre extraordinairement important d'autres sites. Et c'est un site qui est un peu exilé, enfin, qui est loin de l'Allemagne. Le gros truc de Audi, par exemple, c'est en Bavière, c'est d'ailleurs dans le centre économique de l'Allemagne. Là, on est dans une zone plus déshéritée et qui était très contente au début de voir arriver ce groupe. Alors l'histoire, on la raconte un tout petit peu vite. C'était M. Horsch, le créateur de Audi. Donc en fait, Audi, c'est sa traduction de ce nom allemand en latin, qui a créé à Zwickau vers 1902-1903 une société qui s'appelait Audi, puis qui a été confisquée par les soviétiques en 1945. Donc ils ont ratissé tous les équipements, toutes les machines, etc. Et après, donc le groupe Volkswagen Audi s'est rapatrié en Allemagne de l'Ouest et puis il est revenu dans les années 90 après la réunification. Et là, c'est donc une usine assez moderne qui est passée à l'électrique avec les points d'interrogation qu'on a notés.
Et justement, de ce passage à l'électrique, Gérard-Marie Henry, dans ses questions d'économie, est-ce que le groupe Volkswagen Audi n'est pas quelque part en campagne politique permanente pour essayer de convaincre à Zwickau que oui, l'électrique, ça peut marcher ?
Mais bien sûr, bien sûr. Et il demande au soutien des pouvoirs publics, mais vous savez que comme partout, bah, les pouvoirs publics hésitent à continuer les subventions assez généreuses qu'on avait pour l'achat des voitures électriques. Et donc le gouvernement allemand, en début d'année, a réduit très fortement les primes pour les voitures électriques. Le gouvernement d'Union allemand a dit ben non, on ne peut pas trop dépenser dans ce créneau-là. Et tout de suite, évidemment, il y a eu une chute encore plus importante des ventes.
Et même si l'on parle d'un pari sur l'avenir, Gérard-Marie Henry, le groupe prend quand même ses précautions parce qu'ils ont donné certaines garanties aux salariés, mais sur une durée limitée là
tout,
aussi.
Tout
alors,
à fait.
Sur un nombre d'années plutôt court, moyenne durée, on va dire, mais malgré tout, on se dit peut-être que quand on va arriver en 2030 et un peu plus, si l'électrique ne s'est pas lancé ou relancé, bah peut-être qu'il faudra qu'il y aura des conséquences en tout cas.
Oui, tout à fait, mais c'est quand même que dans 6, 7 ans, 8 ans, et les gens, bon, on leur dit, n'ayez pas peur, d'ici là, la situation va tourner, etc. Mais donc, le pari n'a pas été fait par Renault, le pari n'est pas fait par Stellantis, le pari n'est pas fait aux États-Unis par Ford. Tous les constructeurs continuent à jouer sur les deux tableaux en se disant, bah, on va quand même récupérer de l'argent sur les voitures traditionnelles, même si ça nous coûte cher de faire des voitures électriques.
Donc à votre connaissance, l'exemple de Zwickau, c'est un exemple qui est un petit peu unique dans l'industrie
unique,
automobile.
Tout à fait, que tout le monde suit, tout le monde regarde qu'est-ce que va faire Volkswagen, comment il va s'en sortir. Alors il a promis de lancer de nouveaux modèles qui devraient être plus attractifs, mais sur un marché qui ne se développe plus, c'est très difficile de prendre une place supplémentaire.
Mais ce marché de l'automobile, on a l'impression qu'il est un petit peu tué dans l'œuf, Gérard-Marie Henry, qu'il n'a même pas démarré, qu'il est déjà terminé.
Il est déjà en grosse difficulté, et c'est un gros souci pour les constructeurs qui ont quand même misé des milliards d'euros, des dizaines de milliards d'euros sur la production de voitures différentes.
Et le meilleur coup de main pour les constructeurs, ça pourrait peut-être être finalement les nations, les États qui décideraient que le véhicule électrique, c'est le seul véhicule viable pour circuler.
Oui, mais c'est pas jouable puisque ça serait d'une part trop coûteux et d'autre part contraire aux libertés individuelles. Vous savez très bien qu'on a décidé en Europe, dans l'Union européenne, de ne plus avoir de voitures à moteur thermique à partir de 2035 et il est certain que cette interdiction va voler en éclats.
Eh bien, en tout cas, un grand merci Gérard Marie-Henri de nous avoir éclairé aujourd'hui dans la question d'économie. On vous retrouvera au fil des prochaines semaines. Même si on est en période de vacances scolaires, vous serez avec nous fidèle au poste pour nous présenter d'autres actualités. Et puis pour les auditeurs qui veulent en savoir plus sur l'économie, il y a un blog qui s'appelle gerardmarie-henri.com. On les invite à aller le consulter, à découvrir tous les bons sujets d'économie. Merci Gérard.
Merci.
Jean-Pierre ?
Oui, il est 18h29.
Je vous voyais écouter avec attention.
Et oui, je suis rattrapé par la pendule. Et en tout cas, c'est l'heure pour nous de retrouver l'actualité régionale avec vous, Alexis Claudrette. C'est en direct et c'est sur RCF.
Avec les titres de ce jeudi 18 avril, depuis le 11 avril, il est possible de déclarer ses revenus 2023. La Direction générale des finances publiques a publié son traditionnel guide pratique pour mieux s'y retrouver et connaître les nouveautés tour d'horizon. Les enfants du Soudanais vont courir demain. Le cross des écoles revient pour une 4e édition.
RCF, l'actualité régionale, Alexis Claudretz.
La maison de champagne Pommerie rend hommage au prince Alain de Polignac, décédé à l'âge de 84 ans, chef de cave de la célèbre maison de champagne entre 1971 et 1992. Il était notamment le créateur de la cuvée Louise. Comme chaque année, la déclaration de revenus s'accompagne de quelques nouveautés, dont la déclaration sur smartphone. Christopher est avec nous.
Et oui, Alexis, il est désormais possible d'effectuer sa déclaration d'impôt sur smartphone. Et pour rappel, il est possible depuis 2020 de consulter sa déclaration sur impôt.gouv, mais également de payer par flashcode et d'avoir un accès à son historique.
Parmi les autres nouveautés, la déclaration des biens immobiliers également.
Oui, en 2023, la Direction générale des finances publiques a imposé aux propriétaires de déclarer leurs biens immobiliers cette année. Il faudra à nouveau y penser si vous ne voulez pas être pénalisé d'une amende de 150 euros pour omission, notamment si vous avez des modifications à apporter.
Et puis cette année, l'accent sera mis sur la confirmation des données.
En effet, la Direction générale des finances publiques insiste sur l'importance de confirmer les données demandées afin de faciliter les échanges avec les contribuables. Sur le site, il sera demandé de confirmer l'adresse postale ainsi que le numéro de téléphone et l'adresse mail.
Alors, on a promis de faire un tour d'horizon avec vous, Christopher, sans oublier qu'il faut désormais indiquer tous les bénéficiaires et le montant des frais de garde pour chaque enfant. Et enfin, il faut aussi, Christopher, souligner un nouveau taux pour la prochaine déclaration.
En lien avec l'inflation, une revalorisation du barème de l'impôt sur le revenu à hauteur de 4,8% a été mise en place depuis le 1er janvier 2024 au niveau national. Et à noter que le taux de réduction d'impôt a été porté de 66 à 75% pour les dons entre le 15 septembre et le 31 décembre 2023 lorsque cela est effectué au profit de la Fondation du patrimoine ou pour la sauvegarde du patrimoine immobilier religieux.
Merci Christopher Fossé. La saison 2024 des déclarations d'impôts est ouverte depuis le 11 avril dernier. Cette campagne des impôts s'étendra jusqu'au 23 mai dans les Ardennes et l'Aube et jusqu'au 30 mai dans la Marne et la Haute-Marne. Mi-2023, novembre 2023, printemps 2024 et finalement septembre 2024, c'est le nouveau délai annoncé pour l'ouverture du premier bâtiment du nouvel hôpital Christian Cabrol de Reims, construit juste à côté de l'hôpital actuel Robert Debré. Un report que le centre hospitalier universitaire justifie par des essais techniques de conformité, notamment en matière de sécurité incendie, qui ne pourront s'achever dans un délai compatible avec l'accueil de premiers patients à cette échéance. En cause, les Jeux Olympiques de Paris 2024, puisque le CHU précise, ce report découle de difficultés à obtenir une mobilisation supplémentaire de certaines entreprises qui sont dans le même temps engagées pour les Jeux Olympiques, à qui elles concèdent la priorité. Sport, ça ne passe pas pour Chaumont. Les volleyeurs au Marnais se sont inclinés 3-7 à 1 dans la deuxième manche des demi-finales face à Tours et perdent la série 2-0. Éliminés de la compétition, ils nourrissent quelques regrets alors qu'ils avaient fini leader de la saison régulière de Ligue A. Le sport qui sera à la fête demain à Sedan avec le cross des écoles. Plus de 1000 enfants courront. Maxime Villa, adjoint au maire, en charge de la culture, du sport, des associations et des animations.
Le cross des écoles, c'est vraiment une journée assez exceptionnelle. Il faut vraiment pouvoir la vivre de l'intérieur. Ce sont tous les enfants scolarisés dans les écoles publiques et privées de Sedan, c'est-à-dire plus de 1000 enfants, qui sur toute la journée eh bien, participent à une course selon leur catégorie d'âge. Donc on a 10 courses autour du lac de Sedan. Selon l'âge, il y a une distance différente. Mais on a voilà plus de 1000 enfants, on a les parents qui sont là. C'est une vraie fête du sport parce que ce sont des élèves qui se sont préparés avec leurs enseignants sur un cycle de courses qui là vraiment font une journée de sport et on le voit, ils ont une grande fierté quand ils passent les lignes d'arrivée et il y a des sourires partout et vraiment c'est un vrai bonheur de les voir. C'est aussi une volonté de la ville d'encourager la pratique du sport dans les écoles. On aide et on a ouvert ce qu'on appelle notre programme de coéducation, c'est-à-dire on a permis à des nouveaux clubs de Sedan d'intervenir directement dans les écoles pour voilà encourager la pratique du sport. On sait qu'à cet âge, on sait que depuis le Covid, il y a moins en moins de pratiques chez les jeunes. Et bien là, nous, on les encourage vraiment à pratiquer, que ce soit à l'école ou aussi en dehors, pour qu'ils puissent ensuite s'inscrire dans les clubs.
Des propos recueillis en ligne avec la rédaction de RCF France-Ardennes. Le parcours de 2 km est organisé autour du lac. C'est la 4e édition du Cross des écoles à Sedan. 18h36, ainsi se referme ce journal. Le 18-19 en Champagne continue sur RCF.
Le 18-19,
tous les jours,
sur RCF,
à Reims,
Châlons, Charleville-Mézières.
Avec vous, Jean-Pierre, par téléphone, la directrice de la maîtrise de la cathédrale de Reims, Sandrine Lebec.
Absolument, Alexis. Avec nous, vous allez dire avec nous, puisque nous l'accueillons tous les deux. Sandrine Lebec est en direct. Sandrine, bonsoir.
Bonsoir.
Question, bonsoir à tous. Alors, tous les gens d'ici ont une seule question à vous poser. On a déjà la réponse. Vous êtes donc bien arrivés, sans problème. Ça rassure les parents, ils le savent.
Oui, oui, ils le savent. Nous sommes bien arrivés après un long voyage de 13h30 quand même.
Ah bon ?
Oui, oui.
Vous avez eu des petits problèmes de transport, non ?
Oh, il y a eu des bouchons.
Ah, voilà. En tout cas, vous êtes sur place et vous êtes où à l'heure actuelle ?
Alors, actuellement, nous sommes à l'hôtel. Alors, ils sont en répétition. Donc là, je suis sortie de répétition. Nous avons visité les sanctuaires, l'hospitalité de Lourdes ce matin. Nous sommes allés faire la maison natale de Bernadette, la maison paternelle, puis le cachot. Donc en fait, nous étions vraiment sur Lourdes et ce soir, nous ferons la procession au flambeau.
C'est-à-dire qu'il y a deux dimensions, la dimension concert, musique, vous allez nous en parler, Alexis va sans doute vous interroger, et puis l'aspect diocésain, spirituel, cette démarche où des jeunes d'aujourd'hui découvrent peut-être pour la première fois Lourdes ou découvrent les sanctuaires mariaux.
Eh bien oui, en fait sur la totalité de mon groupe, ils sont 44, seulement deux étaient déjà allés à Lourdes.
Ça c'est intéressant.
Oui.
Alors ils sont contents tout le monde ?
Ah oui, oui, ils sont très très contents, ils ont déjà rempli des bouteilles, des bouteilles d'eau. Et alors qu'on leur a dit qu'ils auraient encore la possibilité d'y retourner samedi et lundi. Mais oui, oui, non, ils sont à fond, ils sont très contents. Mais on a jonglé un peu avec la pluie et le temps qui est un peu capricieux là aujourd'hui.
Sandrine Lebec, on aura l'occasion de balayer l'ensemble du programme du week-end demain, puisque vous serez de nouveau en ligne avec nous dans le 18-19 en Champagne. Mais pour parler un petit peu du programme là des jours à venir et puis de la soirée, vous avez évoqué une procession au flambeau. Alors, est-ce que l'on peut en savoir plus ? Est-ce que vous-même, peut-être, vous en savez plus sur cet événement ?
Oh non, enfin, on va y aller comme tous les autres pèlerins. Nous allons nous présenter à 20h45 et puis on va participer à comme tout le monde et on va chanter comme tout le monde voilà dans la foule et puis demain eh bien nous irons au Pic du Midi et nous aurons notre premier concert à Bagnères de Bigorre dans l'église Saint-Vincent.
Mais quand on fait de la musique tous les jours, quand on est un ensemble comme la maîtrise de la cathédrale et qu'on sait qu'on va partager ce moment à la fois avec vous en tant que directrice, mais à la fois avec tous les jeunes qui sont réunis, les autres pèlerins qui seront là, on imagine qu'on s'attend quand même à vivre un grand moment de joie et peut-être même d'émotion.
Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Et les enfants sont heureux, là, vraiment.
On ne sait pas, on vous coupe, Sandrine, si Laetitia n'est peut-être pas à vos côtés, je ne sais pas, aujourd'hui, là, en ce moment, pour ce direct.
Non, elle est pas.
Mais de toute façon, simplement pour nous mettre en appétit, puisque demain, on vous retrouve dans le 18-19, deux lieux de concert, j'ai entendu parler de Tarbes, de Pau, enfin d'endroits, vous pouvez nous les préciser quand même pour nos amis auditeurs.
Alors, demain soir, c'est à l'église Saint-Vincent de Bagnères de Bigorre à 20h30. Ensuite, nous chanterons le lendemain, donc le samedi à 20h cette fois-ci, à la collégiale d'Ibos. Et ensuite, pour terminer, nous chanterons mardi à Tarbes, à l'église Saint-Vincent.
Ah, c'est un très très beau programme, Alexis. Voilà. On avait envie de dire, Alexis me disait tout à l'heure hors antenne, ah bon, on va aller les suivre. Mais quand même, si vous avez 13h30 de route et de bouchons, on hésite un petit peu quand même, parce qu'il faut revenir.
Oui, c'est ça. Mais il y a des vols très très directs. Hein.
Oui, bien sûr, il y a le Paris-Tarbes en avion.
Et puis en tout cas, n'hésitez pas à nous envoyer ou à relier par les réseaux de la maîtrise des photos. Et puis on se fera un plaisir, nous, sur RCF, de les partager aussi à nos auditeurs, bien évidemment, Sandrine Lebecq, pour montrer un petit peu les coulisses de ce que l'on raconte à l'antenne. Parce que souvent, c'est un petit peu la frustration aussi à la radio. On est en direct avec vous, on entend des témoignages, on a envie d'avoir les images. Et puis ça fait toujours plaisir aux parents, aux grands-parents, aux jeunes qui reconnaissent aussi leurs copains sur les photos. Et bien voilà, nous, on se fera un plaisir de relayer évidemment toutes ces images. Sandrine Lebecq, on vous remercie d'avoir été avec nous dans ce magazine régional. Et puis on se retrouve demain pour faire un point d'étape sur votre itinéraire, comme on dit.
D'accord, très bien, c'est formidable.
Au revoir Sandrine Lebecq.
Au revoir.
Et à très
merci
bientôt.
Merci beaucoup, à très bientôt, merci.
Le 18-19 sur RCF.
Et à 18h41, on va prendre une toute autre direction, Jean-Pierre, avec quand même de beaux événements à présenter dans la région. Pour sa 14e saison, Métallurgique Park a ouvert ses portes le 6 avril dernier. Pour cette nouvelle saison, évidemment, vous l'avez bien compris, un programme danse entre animation, musique et immersion dans le monde médiéval que nous présente son directeur Clément Michon. Il est en ligne avec Christopher Fausten.
Bonjour Clément Michon.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui en ligne sur RCF pour nous présenter cette 14e saison dans quelques minutes. C'est promis à nos auditeurs. Dans un premier temps, eh bien, parlez-nous de ce rendez-vous culturel du Metallurgic Park qui est implanté dans une usine du 19e siècle du côté de Dommartin-Lefranc.
Tout à fait ça. Donc, Metallurgic Park est un centre d'interprétation construit autour d'un haut fourneau de 1834 qui a été conservé et restauré,
oui,
avec donc mise en valeur avec un spectacle son et lumière qui permet de découvrir l'histoire de la métallurgie en Haute-Marne, quasiment des origines jusqu'à nos jours.
Alors comment est née cette manifestation?
Alors, la métallurgie à l'origine, est née autour, grâce à l'ASPM, l'Association de protection et de sauvegarde du patrimoine métallurgique au Marnais, qui a en partie sauvé le site et puis mis en valeur. Et ensuite, notamment le projet a été porté à son tour par la commune de Dommartin, la communauté d'agglomération du Val-de-Blaise, et aujourd'hui la commune d'agglomération Saint-Dizier d'Air et Blaise qui anime et ouvre chaque année le site au public d'avril jusqu'à novembre.
Et c'est destiné à tous les publics?
Nous accueillons tous les petits et les publics, les petits et les grands, puisque nous avons différents types d'animations qui peuvent être proposées à différents âges.
Metallurgic Park a ouvert donc ses portes le 6 avril dernier, le tout avec un programme plutôt riche, avec des animations tout au long de l'année, Clément Michon.
Oui, nous organisons régulièrement différentes animations pour inciter notamment le public à découvrir le site de différentes manières. Nous avons eu une animation à l'occasion de l'ouverture du site et donc là nous continuerons, notamment pour les vacances de Pâques, avec le 24 avril, un atelier de fabrication de médailles en étain, qui est notamment un des ateliers que nous programmons régulièrement tout au long de l'année, qui permet d'initier le public vraiment à la technique de la fonte au sable. Il doit fabriquer notamment un moule dans lequel après on pourra fondre une petite médaille en étain. Cet atelier, nous le proposons pour chaque vacances scolaires, animé à trois autres reprises, donc en juillet et en août, donc notamment le 7 et le 21 août, ainsi le 10 juillet.
Ainsi que le 10 juillet. La musique sera aussi au rendez-vous du côté de Dommartin-Lefranc.
Nous organisons aussi, donc l'idée étant de pouvoir redécouvrir le site de différentes manières, donc des concerts. Donc nous avons un concert le 10 juillet, justement, juste après l'atelier, donc comme ça le public pourra faire une après-midi complète. Donc à 17h30, donc nous accueillons donc le groupe, donc là plutôt de la musique rock, 70 Miles.
Sans oublier le week-end médiéval, et ça c'est en juillet.
Oui, ça c'est en juillet, alors c'est vraiment notre temps fort de l'été. Donc il a lieu le 20 et le 21 juillet. Donc là, sur un week-end complet. Donc le site accueille différents personnes qui font de la reconstitution historique, donc nous autour du thème de la métallurgie à l'époque médiévale. Donc nous avons notamment forgerons, orfèvres, donc une animation de reconstitution de bas fourneaux, notamment qui permettait de faire, réduire le minerai de fer à l'époque médiévale. Nous allons avoir également aussi autour de tous les usages notamment du métal, donc y compris des démonstrations de combat.
Oui.
Par groupe de taille des stocks, d'une représentation animation de chirurgie aussi à l'époque médiévale, parce que là on va jusqu'au bout de, justement une fois passé la guerre, il faut aussi soigner les participants au combat. Donc c'est également des animations musicales qui seront proposées, notamment des conteurs, des musiciens qui sont présents sur le site, et des animations aussi qui vont s'adresser un peu plus aux enfants. Notamment, nous avons l'association Médiévalis qui animera un atelier autour du thème du jeune écuyer.
Clément de Michon, on a parlé des ateliers, on a parlé de la musique, on a parlé du week-end médiéval. Combien de spectateurs attendez-vous justement à cette manifestation ?
Au week-end médiéval, nous attendons, si on reprend les chiffres des années passées, nous attendons environ 1500 personnes sur le week-end.
1500 sur le week-end médiéval, sans oublier bien sûr la participation du public à ces différentes manifestations telles que les concerts et puis ces ateliers qu'on vient de présenter il y a quelques instants. Clément Michon, alors justement vous venez de le dire, hein, par rapport aux chiffres des années précédentes, aujourd'hui on est à la 14e édition de Metallurgic Park. Quel retour vous en tant que directeur justement de Metallurgic Park, quel retour faites-vous de ces précédentes éditions?
Alors, sur les précédentes éditions de Metallurgic Park, donc on a un public fidèle qui est toujours là au rendez-vous, des formules évidemment qui plaisent au plus grand, notamment les ateliers qui sont toujours autant de succès. Chaque fois que nous les programmons, c'est assez complet, donc j'invite le public à réserver aussi, notamment rapidement, pour pouvoir participer aux ateliers de fabrication de médailles en état. Un public est toujours intéressé et connaisseur de l'histoire de la métallurgie, qui a toujours, en tout cas pour certains, même qu'on retrouve d'une année sur l'autre, qui ont plaisir à revenir. Et ça, c'est sans doute quand on a un public qui passe un bon moment, une belle après-midi, c'est sans doute la meilleure des récompenses.
Et j'imagine pour vous, en tant que directeur, Clément Michon, de Metallurgic Park, entendre ces bons retours justement du public, c'est à la fois une satisfaction personnelle, mais j'ai envie de dire pour vous et pour toute l'équipe qui organise toutes ces manifestations du côté de Don Martin Lefranc.
Oui, tout à fait. C'est vraiment en tout cas un plaisir de pouvoir de voir en fait le visiteur satisfait, de lui amener à faire découvrir l'univers, le monde de la métallurgie et cette part de l'histoire, notamment du département, qui était assez importante. Donc c'est aussi un plaisir, donc comme vous le disiez, pour moi, pour l'équipe, aussi pour les bénévoles de la SPM,
oui,
qui chaque année proposent une exposition temporaire. Donc là, on va avoir aussi une nouvelle exposition temporaire de Feu de Fer, Vallée du Fer, donc qui vont être mises en place par cette association. Et on a toujours autant de plaisir chaque année à revenir travailler à Metallurgic Park.
Info, réservation, programmation, où peut-on retrouver toutes ces informations, Clément Michon?
Alors, nous avons plusieurs endroits où on peut retrouver les informations. Il y a donc déjà sur le site de Metallurgic Park, donc site internet qui notamment se trouve sur le site de la ville de Saint-Dizier. Nous avons aussi une page Facebook sur laquelle on met régulièrement tous nos événements. Et également, vous pouvez retrouver les informations sur le programme culturel du musée de Saint-Dizier et Metallurgic Park. Il peut se retrouver dans différents lieux culturels. Et également, bon, vous pouvez aussi nous appeler ou nous écrire.
14e saison de Metallurgic Park du côté de Don Martin Lefranc en Haute-Marne, avec animation, musique et immersion dans le monde médiéval. Merci beaucoup Clément Michon d'avoir accepté notre invitation en ligne sur RCF. Je rappelle que vous êtes le directeur du Metallurgic Park et on vous souhaite une très belle saison culturelle.
Merci beaucoup.
Vous l'avez compris, une saison riche en animation à Dampmartin-le-Franc en Haute-Marne. Un grand merci à Clément Michon, à Christopher, évidemment, pour la présentation de cette nouvelle saison.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
Et on vous propose ce soir un nouveau zoom sur le lycée Saint-Jean 23 de Reims, ou plutôt sur une des initiatives que prend cet établissement, puisque demain il y aura une journée tout à fait particulière. Adriana Chaubria, directrice adjointe de l'établissement, est avec vous, Jean-Pierre.
Adriana Chaubria, bonjour.
Bonjour.
Alors si vous êtes là, c'est parce que dans quelques jours, ce sera vendredi prochain, il existe une grande journée de rencontre entre tous les élèves du lycée Saint-Jean 23, c'est un événement. J'ai envie quand même, pour vous présenter, puisque c'est la première fois, je crois, que vous venez à RCF.
Oui.
Parce que, en fait, il n'y a pas très longtemps que vous êtes directrice adjointe.
En effet, j'ai pris le poste en février 2023. Au départ, au trait de Madame Moussin, qui était la directrice adjointe.
Et comment ça s'est passé? Vous étiez professeur, je crois, au lycée Saint-Joseph de Reims, et vous êtes passé d'agir de l'autre côté de la barrière. Vous n'êtes plus enseignant, mais dans le personnel qu'on dit administratif, mais bien au-delà.
C'est ça. Monsieur Besancenet a un projet donc de passation en cours d'année. Donc j'ai fait cette année-là, donc 2023-2024, enseignante jusqu'en février, et je suis devenue donc directrice adjointe. Au départ, en retrait de Madame Roussin, et voilà, j'ai effectivement basculé au milieu de l'année sur le poste.
Alors, vous êtes originaire de Roumanie, vous parlez très bien le français. Vous êtes en France depuis combien d'années ?
Depuis 20 ans.
Vous êtes là pour évoquer, bien sûr, le lycée Saint-Jean 23. Que va-t-il se passer vendredi prochain ?
Alors, vendredi 19 avril, il y a une journée qu'on a intitulée la journée Saint-Jean 23, bien avec soi, bien avec les autres. Une journée banalisée dans laquelle tous les élèves de l'établissement, les enseignants, le personnel seront dans des ateliers, trois ateliers notamment, dans la journée. Et chaque atelier sera axé sur une thématique. Les trois grandes thématiques de la journée sont la prévention et la sensibilisation, donc autour des sujets qui sont assez proches de ce qui se passe aussi dans l'actualité, on va dire, que ce soit dans les addictions, le harcèlement, la prévention routière. Le deuxième axe, c'est l'axe santé-bien-être, avec de nouveau des choses qui touchent beaucoup nos élèves, puisque depuis le Covid, peut-être on le ressent un peu plus, le fait qu'ils ont besoin d'être un peu plus rassurés, de gérer leur stress, aussi d'être bien avec eux déjà avant de pouvoir être bien avec les autres. Et enfin, le dernier axe, l'axe engagement citoyen, qui nous paraît donc un axe important, d'une part parce que ça permet de s'investir et de donner du temps pour les autres, et puis aussi donc de cette façon-là montrer qu'on est bien avec soi et avec les autres, et aussi pour mettre en valeur aussi les élèves de l'établissement, puisque j'ai découvert dans ce lycée beaucoup d'élèves qui s'investissent énormément, qui ont déjà un engagement qui est très fort. Et ils seront mis à l'honneur lors de cette journée, puisqu'ils présenteront chacun les associations pour lesquelles ils œuvrent au quotidien.
Si on résume un peu ce que vous nous dites, c'est une journée où il n'y a évidemment pas de cours, mais c'est une journée qui peut permettre aussi de dire un certain nombre de choses. Dans le monde d'aujourd'hui, on a parfois à l'intérieur des établissements, même d'excellents établissements, des élèves qui peuvent souffrir de mal vivre, de mal être, qui peuvent connaître des difficultés qui n'apparaissent pas forcément, même aux enseignants les plus zélés. Donc ça veut dire que là, vous allez essayer de peut-être aussi de voir s'il y avait telle ou telle question, d'identifier quelle ou telle chose positive aussi, bien sûr. Et comment vous allez articuler la journée? Il y a des intervenants extérieurs? Comment ça s'articule?
Oui, donc on a plus de 60 intervenants sur la journée et 45 ateliers en même temps. Donc l'ensemble de l'établissement sera vraiment occupé.
Quel type d'intervenant vous avez ?
Alors c'est très très varié. Nous avons aussi bien donc dans l'axe prévention routière des associations du département donc qui œuvrent donc pour la sécurité routière. Nous avons également CAST, qui est une association qui accueille des personnes sujettes aux addictions. Nous avons également l'établissement français du sang qui viendra. Vraiment beaucoup d'intervenants aussi, donc dans les engagements associatifs, les associations style Manao, donc qui est une association qui œuvre pour les orphelins à Madagascar, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme qui sera également présente. Et Allopias, qui est une association pour les défis solidaires.
Alors c'est interne l'établissement, c'est-à-dire c'est pas ouvert au public, ce sont les élèves qui sont bien sûr concernés. Est-ce que il y a un temps avec des parents, avec des professeurs, comment ça se passe au cours de cette journée?
Alors nous avons voulu ouvrir au moins aux parents si c'était possible la journée, puisqu'effectivement les ateliers sont seulement pour les élèves et le personnel et les enseignants, et donc les délégués ont eu l'idée d'organiser un marché solidaire qui aura lieu pendant midi, donc de midi à 14h. Les parents sont invités et peuvent venir déjà voir le marché solidaire et donc interagir aussi peut-être avec les intervenants qui seront là.
Comment, puisque vous êtes là depuis peu de temps, mais comment vous voyez un petit peu cet établissement vu de l'intérieur et avec les responsabilités qui sont les vôtres au niveau des élèves? Vous avez dit des élèves motivés, des élèves qui en veulent, peut-être aussi des gens qui sont peut-être plus dans l'ombre, qui ne parlent pas, qui sont peut-être enfermés, peut-être un peu plus timides. Comment vous voyez un établissement comme ça quand on est adulte aujourd'hui?
Alors cet établissement est vraiment surprenant et peut-être atypique, déjà par son fonctionnement avec les permanences et la manière dont s'articule en fait l'emploi du temps de la journée autour des plages de 45 minutes. Mais c'est surtout la cohésion aussi bien donc des élèves que des enseignants et des personnels. Je suis vraiment très heureuse d'être dans cet établissement. J'ai été très bien accueillie. Et j'avoue que le dynamisme aussi bien des élèves que des enseignants est vraiment touchant, et c'est une vraie force pour pouvoir avancer.
Il faut dire qu'il y a de gros projets. On en a parlé récemment avec Marc Besancenet, qui est le directeur de l'établissement, le fameux projet Kilimandjaro, une montagne à gravir. Alors là aussi, ça motive quand même un certain nombre d'élèves, ça.
Oui, et justement, dimanche dernier, nous avons eu la marche solidaire.
Et alors, comment ça s'est passé? On en avait parlé avec Marc Besancenet.
Très bien, il y a eu plus d'une centaine de personnes qui étaient là, des personnes aussi qui ne sont pas de l'établissement.
Vous avez eu du beau temps en plus, hein?
Oui, nous avons eu de la chance aussi, effectivement, et donc il y a eu beaucoup d'élèves qui sont venus aussi.
Il faut rappeler que cette marche solidaire était faite pour accompagner... En quelque sorte, la démarche que vous entreprenez avec cette jeune fille handicapée, puisqu'il lui manque une jambe, je crois, et qui va quand même gravir le Kilimandjaro au mois de juillet.
C'est
donc ça.
Ça
se prépare. Et alors, vous avez choisi des chemins, c'est pas le Kilimandjaro, hein, vous avez monté là.
Alors, on avait avec nous Arnaud Chasserie, qui est justement un des co-organisateurs du projet, et il disait qu'en termes d'altitude, en tout cas au départ, pour ce qu'on a fait, ça correspond plutôt bien à ce qu'ils vont faire également au Kilimandjaro.
Merci en tout cas, Adriana Chobria, d'avoir été avec nous. Rappelons que vous êtes directrice adjointe du lycée Saint-Jean 23 de Reims. On vous souhaite un beau vendredi qui vient.
Merci.
Au revoir.
Voilà pour cette interview de Adriana Chobria, donc, et ce rendez-vous qui est donné demain au lycée Saint-Jean 23 de Reims. Peut-être qu'on aura un retour sur expérience aussi avec des lycéens qui viendront au micro de RCF ou RCF qui ira à leur rencontre. Jean-Pierre, on peut imaginer le champ des possibles. En début d'émission, on allait le programme, on teasait un petit peu les grands rendez-vous à noter pour nos auditeurs. Évidemment, sur RCF France Ardennes, demain matin à 7h, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort.
Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, 7h, 8h, 7h en direct.
On le retrouve également dans le magazine régional demain soir à partir de 18h10, où on retrouvera normalement, comme d'habitude, Jacques Cohen avec sa chronique d'actualité si la ligne veut bien fonctionner. Et puis tout un tas d'autres personnes, mais on garde quand même quelques surprises parce que même nous, on n'est pas toujours au courant. Hein, on se fait en fonction de l'actualité et
bien
de
sûr.
Ce qui se passe au jour le jour et aux fonctions, j'allais dire, de l'heure et des minutes. Jean-Pierre, il nous reste un petit peu de temps ce soir. L'occasion d'annoncer un autre rendez-vous avec Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort. Ça sera mercredi prochain, une émission spéciale pour les auditeurs de RCF France Ardennes et pour les auditeurs qui nous écoutent en DAB+.
Absolument, entre 18h10 et 19h, une émission spéciale consacrée à la fin de vie. Vous savez que le Parlement va examiner un projet de loi déposé en Conseil des ministres il y a une quinzaine de jours. Et évidemment, sur ce sujet capital pour l'Église et pour beaucoup d'auditeurs et d'auditrices qui nous suivent, c'est un sujet de débat. Nous aurons à notre micro le docteur Sainton qui suit aussi cette question des soins palliatifs, l'archevêque et puis sans doute d'autres personnes, d'autres intervenants qui viendront avec nous.
Eh bien, un grand merci Jean-Pierre pour le teasing de cette émission. On vous souhaite une bonne soirée. En musique, vous pouvez laisser, ça fait un tapis, ça permet à Fabrice de faire la transition. C'est lui qui était à la mise en onde ce soir. On se retrouve demain à 18h10 dans quelques instants. L'information nationale, bonne soirée.
Bonne soirée, à demain.